De 10h à 11h, c'est QFD.
Voici à présent une véritable arche de Noé, chien, cochon, cheval, mouton, mais aussi drosophile, canari, lion, ver à soie, bison, autruche et autres chinchillas. C'est leur histoire, celle de leur domestication que nous allons vous conter maintenant, grâce à un livre paru aux éditions Delachaux et Niestlé qui vous a passionné, hein, je crois, Sarah Dirène.
Ah, vraiment, au titre simple, Histoire de la domestication animale, c'est un livre parfaitement documenté, gravures, chiffres et diagrammes riches d'enseignements. De la première domestication, celle du loup, il y a près de 30 000 ans, aux récentes domestications d'espèces marines, par exemple. Alors, une fois le loup transformé en chihuahua, place aux herbivores, une longue domestication qui va favoriser l'essor de l'agriculture, une domestication qui a donc transformer profondément nos sociétés humaines, car certes, au centre de la domestication animale, il y a la sélection naturelle, chère à Darwin, mais il y a surtout de la culture. Sans elle, impossible de comprendre les conséquences de toute domestication, qu'il s'agisse d'insectes, de chameaux ou de souris de laboratoire.
Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire sciences, philosophie et histoire du CNRS et de l'Université de Paris. Domestication animale, on imagine évidemment que c'est un domaine vaste et complexe. Que recouvre justement ce mot domestication ?
Ah, c'est un véritable piège parce que tout le monde connaît le mot domestication. Tout le monde a l'impression de pouvoir donner un sens assez facilement. La domestication, lorsqu'elle est vraiment avérée, c'est l'art et la manière de transformer une espèce sauvage en quelque chose de différent. Et en quoi elle diffère, c'est que ces individus transformés deviennent compatibles avec le mode de vie artificiel qu'on peut leur offrir. Il s'agit vraiment d'une transformation orientée vers, encore une fois, un cadre de vie artificiel que va rencontrer ces individus dans le cadre de l'élevage.
Mmh. Alors, je prends un exemple très concret, un lion dans un cirque, on en voit de moins en moins, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'il est domestiqué ou est-ce qu'il est apprivoisé ?
Non, il est apprivoisé. Alors la différence, c'est que l'apprivoisement consiste à prendre un animal sauvage à l'origine et lui apprendre, de bon gré ou contre sa volonté parfois, un certain nombre d'attitudes, de comportements qu'il n'aurait pas eu dans son environnement naturel. Sauf que lorsque cet individu, ce lion en particulier, meurt, sa descendance n'hérite pas de ce qu'il aura appris. Parce que cet apprentissage, cet apprivoisement n'est pas héréditaire. Il n'influe que l'individu qui a suivi cet apprivoisement. Tandis que la domestication est héréditaire. Le jeune chien qui naît a déjà des capacités différentes du loup à sa naissance, et c'est ce qui va lui permettre d'avoir des relations tout à fait particulières avec les êtres humains qui l'entourent. Mmh. Et des caractéristiques, des possibilités que n'ont pas les loups sauvages.
Et si on prend l'exemple à mi-chemin, Valérie Chansigaud, l'exemple du furet, il est mi-sauvage, mi-domestiqué, il arrive à transmettre quelque chose à ses descendants ?
Non, le furet est réellement une espèce domestique. Elle a été domestiquée il y a probablement entre 5 et 10 000 ans comme animal de chasse, en fait. C'était vraiment un auxiliaire de chasse. Et réellement, il y a une transformation extrêmement élaborée du furet. Parce que l'animal d'origine était un putois, en fait, c'est pour ça qu'on parle de putois, l'animal sauvage, et le furet, l'animal domestique. Sauf que, histoire de compliquer les choses et de perdre les observateurs, il y a des furets qui sont, j'ouvre des guillemets, retournés à l'état sauvage. Ça veut dire quoi ? Ce sont des animaux qui se sont enfuis ou qu'on a libérés délibérément dans la nature et qui ont adopté un mode de vie libre, loin des êtres humains. Pour autant, il n'y a pas un retour en arrière possible. Ces furets sont restés furets, même dans la nature, ils ne sont pas redevenus putois. Et par exemple, la diminution du cerveau, qui est l'une des caractéristiques de la domestication des animaux, qui s'observe dans le passage du putois au furet, eh bien en fait, ces furets, même après des dizaines de générations passées dans la nature, ils ne retrouvent pas le cerveau de putois qu'ils avaient à l'origine.
Alors le furet est reparti, enfin, pour certains d'entre eux dans la nature. Prenons le cas de la souris, parce que c'est intéressant. Elle n'a jamais été domestiquée, mais elle s'est un peu transformée au contact de l'homme.
Exactement. La transformation, enfin, l'influence de notre espèce sur d'autres espèces ne suffit pas à établir la domestication, et la souris est un bon exemple. Pour comprendre l'histoire de la souris, il faut se rappeler qu'il y avait des souris sauvages qui ont vécu l'arrivée des premiers agriculteurs. Et les premiers agriculteurs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des choses très attirantes pour certaines souris, à savoir des silos où on entreposait le grain de façon schématique. Et donc les souris se sont adaptées à cette transformation de leur écosystème naturel et sont devenues, on l'appelle parfois abusivement, on les appelle parfois souris domestiques. Simplement là, on fait référence au domus, à la maison. C'est en fait un animal qui reste sauvage, qui s'est transformé, mais dont la transformation n'a pas été délibérée. Vous imaginez bien que les premiers agriculteurs n'avaient pas envie d'avoir des souris qui viennent manger leur grain, donc ils n'ont pas cherché à transformer ces souris. La transformation s'est faite, je dirais, naturellement. Mmh. Il y a une deuxième histoire de la souris, c'est que à la fin du 19e, début du 20e siècle, les laboratoires ont eu besoin de souris. Et là, il y a une véritable phase de domestication qui a débuté pour la souris, et notamment la souris blanche, et qui a abouti, en fait, à des lignées parfaitement artificielles dans les laboratoires qui avaient certaines caractéristiques propres à faire, à rendre possible certaines recherches particulières. Mmh. Donc là, on voit bien que l'histoire de la souris est double, et ça permet de comprendre toutes les subtilités de ce mot domestication, une première phase qui est une phase, je dirais, naturelle, sans une intervention délibérée de l'être humain, qui a conduit en fait à l'adaptation de la souris au milieu de la ferme, au milieu artificiel, et une deuxième domestication qu'a subi la souris, cette fois délibérée, de la part des scientifiques, pour avoir un animal de laboratoire standardisé.
Voilà pour la souris. Le loup, maintenant, Sarah, vous le disiez, hein, il a été le premier à être domestiqué, il y a donc 30 000 ans. Pourquoi on a choisi finalement cet animal-là comme première domestication, Valérie Chansigaud?
Ah, vaste question qui est davantage philosophique que biologique, parce que d'une certaine façon, il faut bien voir, on n'a pas de témoignage des premiers peuples, d'autant que la domestication du loup qui a donné le chien ne s'est pas faite dans un seul lieu, elle s'est faite dans une aire géographique extrêmement étendue, qui va de l'Europe occidentale à l'est de l'Asie, et elle s'est pas faite une fois. Il n'y a pas eu un homme ou une femme préhistorique génial qui aurait eu l'idée un matin de transformer le loup en quelque chose de différent. C'est des choses qui sont étalées sur des siècles, peut-être des millénaires, où il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, beaucoup d'échanges d'individus qui commençait à être transformé, et en fait le loup n'est pas devenu instantanément chien. Ça résulte d'un très 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 long processus dont on a en définitive très peu de traces. C'est-à-dire on arrive à repérer à partir de quand on a clairement des chiens domestiques, à partir de quand, un peu plus loin dans le temps, on a commencé sans doute à avoir des loups passablement transformés, mais le début de cette histoire est en fait impossible à dater. On sait, on peut offrir une fourchette de temps, mais pas une date en particulier.
On parle de sélection par docilité, ce serait le cas du loup?
Oui, c'est une idée géniale de Charles Darwin, qui en a eu quelques-unes dans sa vie. Et en fait, il s'est beaucoup intéressé à la domestication, tant animale que végétale, parce que c'était pour lui une façon de comprendre comment la sélection naturelle, donc sans l'action humaine, pouvait se passer, comment ça se passait en fait. Et il a l'intuition que si on a pu domestiquer tant d'espèces, c'est parce qu'on a fait une sélection des individus les plus dociles. Alors ça s'explique parce que imaginez bien que des animaux en élevage, quels qu'ils soient, si leur première intention est de sauter à la tête de leur éleveur ou de s'enfuir, clairement ce ne sont pas des bons candidats pour les élevages. Mmh. Donc il y a eu une une sélection effectivement sur la docilité. Et il a fallu attendre le XXe siècle pour avoir une démonstration par une expérience assez folle conduite par un généticien russe qui a fait un élevage de renards argentés, des renards utilisés pour la production de fourrure, et il a mis en pratique l'idée, l'intuition de Darwin, à savoir il a gardé à chaque génération les renards les plus dociles. Et au bout de 30, 40, 50, 60 générations, il a vu se transformer d'un point de vue comportemental, mais également morphologique, physiologique, ces renards, et ils sont devenus quelque chose de légèrement différent. Ils n'étaient pas totalement domestiqués, mais il a vu apparaître, par exemple, les queues en tire-bouchon, ou des pelages pie, vous savez, ces pelages blancs, avec des grandes taches blanches. Ouais. Il a vu aussi des renards avec les oreilles cassées, qui est un signe assez indéniable de l'effet de la domestication. Et simplement en sélectionnant à chaque génération des renards les plus dociles, il a sélectionné en fait toute une série de gènes, on peut le démontrer, ce que ne pouvait pas faire Darwin, des gènes très particuliers qui ont en fait des conséquences en cascade, à la fois sur le comportement, mais aussi sur la physiologie, la morphologie.
Alors on sélectionne par la docilité, on sélectionne parce qu'on a besoin de viande, on sélectionne, alors on ne sait pas très bien comment, est-ce qu'on connaît l'histoire de la domestication des poules? Est-ce que c'était du futile, de la beauté ou vraiment pour pouvoir les manger?
Alors, il y a deux éléments qu'on peut répondre à votre question. C'est, alors, dans le cas des poules, il n'est pas clair qu'on ait domestiqué cet oiseau pour ses œufs ou pour sa viande. Ce n'est pas évident, on n'a pas d'éléments. Et on sait que les poulets, d'une façon générale, ont été très largement utilisés comme animal sacrificiel et également animal de combat. C'est une grande passion de l'être humain de mettre dans une arène des animaux qui se massacrent. On le voit dans une grande quantité de cultures. Et il est possible, parce qu'on a d'autres exemples, par exemple le poisson combattant, qui était élevé spécifiquement pour des combats d'animaux, il est possible que ça soit ses motivations. Mais on retrouve d'ailleurs cette même chose pour la vache. Il n'est pas sûr que la domestication de la vache ait été pour son lait ou pour sa viande, mais peut-être pour les grands sacrifices d'animaux qui pouvaient en fait réclamer le sacrifice de dizaines, voire de centaines d'animaux exactement du même âge, de la même couleur, du même sexe, de la même taille, avec la même forme de corne. Et bien évidemment, ça, la nature sauvage ne pouvait pas les fournir très facilement, donc il fallait les mettre en élevage.
On a le sentiment, Valérie Chansigaud, lorsqu'on parle de domestication, on se dit c'est une vieille histoire, mais pas du tout, on n'a jamais autant domestiqué que ces 30 dernières années.
Oui, le phénomène s'est accéléré et continue de s'accélérer, tout simplement parce que les progrès en génétique et aussi l'évolution, je dirais, de l'exploitation du monde naturel a rendu en quelque sorte obligatoire, je mets des guillemets autour du mot obligatoire, parce que j'ai l'impression de donner un sens à l'histoire, mais ça a rendu nécessaire de nouvelles domestications. Je vais vous donner un exemple très, très rapide. L'exploitation et la surexploitation des ressources halieutiques, c'est-à-dire grosso modo des poissons et des autres animaux qui vivent dans la mer et que l'on pêche pour s'en nourrir. Cette exploitation a été tellement grande qu'on a assisté à un effondrement des populations sauvages. Et peu à peu, en fait, on s'est mis à faire des élevages d'animaux aquatiques pour se substituer, et on s'est effectivement substitué, à la pêche marine. Et ce faisant, eh bien en fait, on a mis en place, on a initié de nouvelles histoires de domestication sur la truite, sur le saumon, sur parfois des crustacés, sur toute une série d'espèces aquatiques. Ces domestications sont déjà bien avancées, d'autres sont vraiment au tout début, mais ça c'est un phénomène qui est accéléré. Et on peut observer actuellement une envie, une idée qui est d'ailleurs assez critiquable, de mettre en élevage intensif des insectes, d'abord pour servir d'aliment pour les animaux et puis éventuellement pour les êtres humains. Et là aussi, ça va aboutir inévitablement à la domestication de ces espèces-là.
Valérie Chansigaud, toutes les cultures ont-elles domestiqué des animaux ?
Non, pas du tout. En fait, les cultures qui ont réellement domestiqué des espèces animales sont assez rares pour deux raisons. Déjà, il faut qu'il y ait un animal domesticable sous la main. Alors, je donne toujours un exemple parce que c'est un exemple qui est tellement exagéré qu'on comprend tout de suite les limites. Si on voulait demain domestiquer la baleine bleue, par exemple...
Oui.
Ça serait assez compliqué parce que c'est un animal de grande taille, donc imaginez les installations, il faut, avec un cycle de vie très long, économiquement, c'est tout simplement impossible. Et en fait, la domestication réclame des ressources extrêmement importantes. Deuxièmement, il faut que les peuples en aient l'envie et le désir, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Comprenez la difficulté qu'il y a à domestiquer une espèce animale. S'il suffit d'aller dans la forêt, décocher une flèche et tuer un autre individu pour le rapporter au village et le manger, ça suffit. C'est pas nécessaire de domestiquer le bison si on en a des milliers autour de soi.
Ouais.
Donc, il faut vraiment qu'il y ait la conjonction de ces deux phénomènes. Une société qui a les moyens économiques de le faire et des raisons pas forcément économique d'ailleurs, parfois symbolique, avec le, comme je disais tout à l'heure, avec les sacrifices, de le faire aussi.
Oui, ou par futilité, je pense aux canaris.
Oui. Oui, oui. Alors, après, est-ce que les sacrifices animaux ne sont pas quelque part futiles ? Ça, c'est aussi une question philosophique. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de domestication parce que la domestication, enfin, l'une des conséquences sur les sociétés humaines de la domestication animale, c'est qu'elle a favorisé, contribué, c'est pas la seule cause, mais l'émergence de sociétés de plus en plus inégalitaires. Et la possession d'animaux domestiques est intimement liée à l'émergence, je dirais, de la notion de richesse, de propriété privée, d'accumulation. Et bien évidemment, dans cet univers qui se caractérise par des sociétés, encore une fois, hiérarchiques, le développement de domestication totalement futile, mais permettant, encore une fois, de participer à l'émergence de ces sociétés inégalitaires, va de soi. Et notamment, le ver à soie est typiquement l'un de ces animaux.
Ouais.
Il a été parfaitement domestiqué. Et il n'assure pas du tout, je dirais, la survie, n'a pas assuré la survie de l'être humain.
Ouais.
Sa production était parfaitement futile.
Merci beaucoup Valérie Chansigaud, vous signez Histoire de la domestication animale.
De 10h à 11h, CQFD.